Bonjour, ici Fabio Lopez du site investir.ch et bienvenue dans mon podcast du 8 novembre 2019 où nous parlerons des idéologies des intelligences artificielles. Souvent, les algorithmes reflètent les choix philosophiques de leurs créateurs à l'insu de leurs utilisateurs. C'est un passage du livre « La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle » de Gaspard Koenig qui m'a ouvert les yeux sur un point qui n'avait encore jamais attiré mon attention, donc justement cette idéologie des algorithmes. Lors du travail préparatoire à la rédaction de son ouvrage, le philosophe français a rencontré de nombreuses personnalités actives dans le secteur de l'intelligence artificielle. Parmi celles-ci, des responsables de Uber, que l'on ne présente plus, mais également de Didi, son équivalent chinois. Les deux sociétés proposent des services similaires, mais leurs algorithmes organisent leurs marchés respectifs de manière totalement différente. Commençons par regarder le cadre du jeu. Les données de base sont d'un côté des voyageurs désirant se rendre d'un point A vers un point B et de l'autre des chauffeurs disposés à les véhiculer, contre rémunération. D'un point de vue modélisation, la ville dans laquelle cela a lieu est un ensemble fini de rues associées à une série de contraintes, par exemple un sens unique ou un axe à éviter à certaines heures. Le terrain de jeu offre ainsi un nombre fini de possibilités. Les voyageurs présentent également une certaine stabilité statistique, donc des comportements prédictibles en partie. Par exemple, des déplacements de l'aéroport vers le centre-ville à certaines heures de la journée ou ce type de choses. Cette configuration qui est étudiée en théorie des jeux est ce qu'on appelle un équilibre de Nash parfait en sous-jeu. Et comme l'ont démontré les auteurs d'un article intitulé « Spatio-temporal pricing for ride-sharing platforms », ce type de configuration permet d'identifier un équilibre optimal, autrement dit d'allouer un chauffeur à un voyageur de manière à répondre le mieux possible aux besoins de chacun. Le fait qu'un tel équilibre puisse être calculé permet également d'y intégrer un tas d'autres paramètres, comme par exemple minimiser la longueur de trajet pour chaque voyage, ce qui permet de réduire la pollution, ou assurer un nombre minimal de courses par chauffeur, ou encore optimiser le trajet de chaque chauffeur afin qu'il passe par une station-service lorsque son réservoir est presque vide. En d'autres mots, l'algorithme est en mesure de tout planifier au mieux. Le meilleur des mondes, grâce à l'intelligence artificielle et au big data. Reste que cette approche est indéniablement totalitaire. Voyageurs et chauffeurs sont appairés par une intelligence artificielle omnisciente qui décide également du parcours et du prix. Cette approche est celle choisie par les concepteurs de Didi, qui affirment que leur intelligence artificielle maximise l'efficacité des transports à l'échelle de la ville, afin de fournir la meilleure expérience de mobilité possible. C'est scientifiquement irréfutable, comme démontré par les trois auteurs de l'article, issus des universités de Harvard et Carnegie Mellon, donc a priori difficilement assimilables à de dangereux suppôts communistes. Du côté maintenant des concepteurs de Uber, qui détiennent également des PhD en théorie des jeux. C'est chose commune dans la Silicon Valley aujourd'hui. Alors l'approche retenue par Didi n'est absolument pas envisageable pour eux. Pas parce qu'ils ont inventé un meilleur système, puisque ce n'est mathématiquement pas possible, mais parce que d'un point de vue idéologique, il leur est insupportable de considérer une approche totalitaire ou intégriste de l'intelligence artificielle. En bons libéraux, ils se devaient de faire confiance aux mécanismes de marché, raison pour laquelle le matching entre chauffeurs et voyageurs se fait au travers d'un prix, justement, de marché. Tout déséquilibre entre offre et demande se résoudra dès lors au travers d'une adaptation du prix affiché, incitant les chauffeurs à se rendre dans les zones où la demande est forte et les dissuadant d'attendre un voyageur dans une zone de faible demande. Parmi les sous-optimalités les plus notables de l'algorithme de Uber, on relèvera les longueurs et temps de trajet, avec des conséquences directes sur la fluidité du trafic et la pollution. Un choix idéologique des concepteurs qui va donc sciemment à l'encontre de l'écologie. Pourtant, la société est vue comme une solution d'avenir pour la mobilité urbaine. L'exemple que j'ai retenu a l'avantage d'être compréhensible par tout le monde, sans besoin de base en théorie des jeux ou en algorithmique, et met bien en évidence deux conceptions diamétralement opposées. Bien entendu, cette dichotomie entre une approche marché et totalitaire se retrouve dans beaucoup d'autres services ayant recours à l'intelligence artificielle et au big data, mais toujours à l'insu des utilisateurs. Cela pose évidemment un problème de démocratie. Une vision simpliste serait d'affirmer que l'approche totalitaire se retrouve plutôt en Chine, ce qui est effectivement ce qu'on observe, et l'approche libérale en Europe et aux États-Unis, ça c'est moins sûr. Le problème est justement que beaucoup de services accessibles en Europe intègrent à différents niveaux l'idéologie totalitaire de leurs concepteurs, sans aucune transparence, ni pour les utilisateurs, ni pour les pouvoirs publics. Prenons par exemple, pour rester dans la thématique de la mobilité urbaine, une application de guidage, puisque celles-ci sont à la mode et récupèrent un maximum de données afin de rendre nos villes supposément plus smart, à l'exemple de l'application Waze, qui appartient d'ailleurs à Google. A priori, l'utilisateur d'une telle application suivra les conseils de guidage prodigués. Mais personne ne sait si les développeurs auraient par exemple décidé, sur base de leurs convictions personnelles, de favoriser la mobilité à vélo, et que leur intelligence artificielle va dès lors proposer un trajet sous-optimal aux automobilistes, afin que les cyclistes aient un trajet plus rapide et plus sécurisé. Tout ceci est techniquement possible, mais les développeurs n'ont pas à décider quelle option est la meilleure. Ce sont les autorités locales en charge de la mobilité et de l'environnement qui devraient indiquer quelle approche la ville désire favoriser. Et celle-ci devrait, a priori, refléter les préférences démocratiques, mais probablement sous-optimales, de leurs électeurs. On comprendra dès lors mieux pourquoi le Danemark a nommé un ambassadeur auprès des GAFA depuis quelque temps. Et j'en arrive à la conclusion. Donc le big data, soit la collection massive de données de toute nature, permet de mieux en mieux d'appliquer des modèles de théorie des jeux proposant des équilibres optimaux dans différents secteurs, allant de la mobilité à la santé ou la finance ou le recrutement, mais également dans le choix d'un conjoint, ça se fait aussi. J'avais expliqué dans un précédent article comment les acteurs de l'économie digitale nous privent de libre arbitre. Le fait est que souvent leur choix idéologique nous prive également d'une part de démocratie. Le problème n'est pas que les options retenues soient bonnes ou mauvaises, mais que les utilisateurs n'aient pas été informés et n'ont ainsi pas pu décider en connaissance de cause s'ils voulaient qu'un algorithme fasse insidieusement des choix qui iraient à l'encontre de leur propre philosophie. Et reste comme toujours la question de l'investissement et la manière dont les analystes ESG intègrent cette problématique dans leurs critères de sélection. L'intelligence artificielle et ses indispensables big data débordant aujourd'hui largement au-delà du secteur des startups technologiques. Les investisseurs devraient dès lors disposer d'informations suffisantes leur permettant eux aussi de faire des choix de portefeuille en accord avec leurs valeurs personnelles. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur investir.ch pour de nouveaux articles.